Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Je reçois aujourd'hui dans cette émission Au fil des pages le lieutenant-colonel Rémy Porte, docteur en histoire et ancien chef de la division recherche du service historique de l'armée de terre, puis du département terre du service historique de la défense. Il a publié récemment, aux éditions 14-18, La mobilisation industrielle, premier front de la Grande Guerre, point d'interrogation, La conquête des colonies allemandes, 1914-1918, Naissance et mort d'un rêve impérial en 2006 et en 2008, du Caire à Damas, 1914-1919, La France et la guerre oubliée qui redessina le Moyen-Orient. Mais s'il nous fait l'honneur d'être au micro de Canal Academy aujourd'hui, c'est pour nous présenter le dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918 qui vient de paraître dans la collection Bouquins chez Robert Laffont et dont il assura la direction aux côtés de François Cochet, professeur des universités en histoire contemporaine et spécialiste lui aussi de la Grande Guerre. Bonjour Rémy Porte, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Alors ce dictionnaire de la Grande Guerre sort à l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, mais j'imagine qu'il s'agit d'un travail de bien plus longue haleine. Expliquez-nous comment est né ce projet.
C'est un travail dont l'origine remonte à 4 ans environ, qui est le fruit d'une rencontre, puisque nous nous connaissions pour nous être croisés sur des colloques auparavant, entre François Cochet, donc professeur à l'université de Metz, un éditeur, la collection Bouquins chez Robert Laffont, et moi-même. Et de cette rencontre est née l'idée d'un produit qui n'existait pas en France jusqu'à ce jour. Il y a un certain nombre d'encyclopédies, avec des thématiques plus ou moins générales, mais aucun dictionnaire alphabétique avec des centaines. Nous sommes finalement arrivés à 2500 entrées, de façon à présenter aux chercheurs, aux amateurs, aux curieux, le panel le plus large possible sur tous les thèmes, les problèmes, les sujets liés à la Grande Guerre.
Oui, alors je dois avouer que ce dictionnaire offre un nouveau regard sur la Grande Guerre et une de ses grandes richesses vient de votre collaboration avec le professeur François Cochet. Et d'avoir ce double éclairage militaire et universitaire est extrêmement intéressant. Racontez-nous un peu cette complémentarité, je veux dire votre collaboration.
Alors, il y a une complémentarité de fait, c'est-à-dire que nous avons chacun nos expériences, nos parcours propres. Et puis, il y a une complémentarité, je dirais presque affective, hein, un double sens. Il est, lui, naturellement plus planché sur certaines questions. Je suis, moi, naturellement plus intéressé par d'autres sujets. Et le fait de travailler ensemble au cours de ces plus de trois années et demie, nous a amené à mieux nous connaître, nous connaissant mieux, à mieux nous comprendre. Et la complémentarité est vraiment devenue une richesse.
Alors, civils et militaires, grâce à vous, ont participé à ce dictionnaire. Il y a environ une quarantaine d'auteurs qui ont participé.
Oui, 36 ou 37 au total.
Et aussi bien du monde universitaire que militaire. Quel type d'auteurs ont participé à ce dictionnaire de la Grande Guerre ?
Alors, nous avons essayé d'obtenir la participation à la fois de très grands historiens reconnus dans leur domaine, professeurs émérites ou professeurs actuellement en activité. Il y a un certain nombre d'entrées de Jean-Jacques Becker, il y a un certain nombre d'entrées de Maurice Weiss, il y a un certain nombre d'entrées de Jacques Frémaux, etc., etc. Et puis, la participation de jeunes docteurs qui viennent de soutenir leur thèse, vraiment sur des sujets très pointus et qui étaient en pointe de la recherche dans leur domaine, que ces jeunes docteurs soient universitaires ou militaires. Il y a un jeune lieutenant du service historique qui a fait les entrées sur l'aviation, qui est spécialiste de ces questions d'aviation à l'époque, chacun apportant son regard et sa complémentarité. Et les grades pour les militaires s'échelonnent de lieutenant à général en deuxième section, et on a le même panel, si j'ose dire, dans le monde universitaire, avec de jeunes docteurs jusqu'au professeur émérite.
D'ailleurs, professeur émérite, vous citiez à l'instant le professeur Jean-Jacques Becker, et je rappelle à nos auditeurs qu'il a fait une intervention au musée de l'armée sur l'armistice du 11 novembre 1918, qui est disponible dans la médiathèque de Canal Academy. Mais revenons-en au dictionnaire de la Grande Guerre. Cette richesse des auteurs, le fait qu'ils soient chacun très pointus, donne un réel outil de travail. Et détaillons un peu plus quel genre de thèmes peut-on retrouver dans ce dictionnaire? Quelles sont les grandes entrées, je dirais, du dictionnaire?
Alors, nous avons, comme vous le dites très justement, voulu faire un vrai outil de travail, mais qui soit en même temps un objet de plaisir agréable à lire.
Mais c'est réussi, il est très agréable
merci.
À lire.
Mais un outil de travail en revenant à ce qu'a été effectivement la guerre. Cette grande guerre qui porte si bien son nom, c'est d'abord une affaire d'hommes. Connus, moins connus, généraux, diplomates, parlementaires, écrivains, peintres, français et étrangers. On a vraiment essayé de faire un effort sur les entrées évoquant les autres pays belligérants, donc les hommes. Ensuite, les lieux, parce que la guerre s'incarne dans des lieux qui sont éventuellement d'ailleurs devenus des lieux de mémoire par la suite. Donc les lieux de combat, avec autant que possible la description, souvent sommaire, parce que la place était quand même comptée, mais la description des combats correspondants. Les hommes, les lieux, les matériels. C'est une guerre industrielle où le rôle de la technique est extrêmement important et il était important de préciser un certain nombre de termes en la matière. C'est une guerre qui se déroule dans un certain cadre. Il y a donc une entrée, droit international, droit de la guerre. Il y a des entrées sur les réfugiés, les prisonniers, etc. Mais aussi sur des termes aujourd'hui oubliés, mais qui étaient d'usage courant dans l'armée et le monde militaire de l'époque. Qu'est-ce qu'un officier de complément? Qu'est-ce qu'un avancement hors tour? Etc. Des termes très spécifiques.
Très techniques.
Mais quand on se plonge dans les archives, ou dans les récits, ou dans les carnets, les témoignages de l'époque, qu'il est nécessaire d'avoir assimilé pour comprendre ces textes-là. Et puis un dernier aspect, qui est tout l'environnement de la société.
Même du vocabulaire, oui.
Voilà, quelques expressions type, entre guillemets, argot de poilu, argot des tranchées. Mais toute la société, c'est vraiment la première guerre dans laquelle, on le sait bien, l'arrière joue un rôle essentiel, la mobilisation industrielle joue un rôle essentiel, la propagande prend son essor. Les journaux, il y a toute une série de titres de journaux qui sont évoqués au fil des entrées. L'ensemble de la société est en guerre. Donc c'est ce qu'on a voulu essayer de montrer. Je donne un total de 1500 entrées.
Voilà. Et alors je rappelle qu'il s'agit bien d'un outil de travail quand même, puisqu'à chaque fin de notice, on retrouve des précieuses références bibliographiques. Vous donnez aussi la cote des archives, et ça c'est très précieux, ainsi qu'une grande bibliographie à la fin de l'ouvrage, en annexe. Bravo pour le travail historique, en tout cas. Oui, bien sûr, ajouter quelque chose.
Sur ce plan-là, des références bibliographiques, hein, ou des notes, hein, en bas d'entrée, le choix a été le suivant. Donner effectivement les ouvrages postérieurs, les ouvrages un peu plus d'analyse, de réflexion, en fin d'ouvrage, et en dessous de chaque entrée, et souvent il s'agit d'articles parus dans la presse périodique qui traitent exactement de l'entrée en question, avec un choix qui était de privilégier les revues et les périodiques globalement de l'entre-deux-guerres, où on a de très grandes revues intellectuelles, scientifiques, d'histoire, etc., qu'on a oubliées. Et en allant rechercher dans le sommaire de toutes ces revues, on trouve effectivement des articles extrêmement intéressants.
Mais il y a aussi, donc je précise aussi, toutes les cotes du service historique de l'armée de terre qui sont bien pratiques pour les chercheurs aussi. Pour que nos auditeurs aient une idée plus précise du genre de notice qu'on peut trouver, j'espère que vous acceptez de nous en lire une.
Je vais essayer.
Et puisque nous sommes au micro de Canal Académie, nous allons en choisir une qui a un lien avec l'académie. Alors puisqu'on trouve plusieurs académiciens dans ce dictionnaire, une large place est accordée aux écrivains, oui. Dites-nous un mot, pourquoi avoir accordé une si large place aux écrivains?
Parce qu'ils ont été à la fois souvent témoins et acteurs de la guerre, et que la paix revenue, le plus souvent la paix revenue, parfois même pendant le conflit lui-même, mais généralement à partir de 1918-19, une grande partie de leur œuvre, qui a très fortement imprégné toute la société française de l'entre-deux-guerres, est issue et presque pétrie dans cette boue des tranchées, dans cette guerre. Et il était important, pour comprendre la société qui va suivre à partir de 18, 19, 20, d'avoir aussi cet éclairage sur les écrivains, dans la guerre.
Oui, et alors bien sûr, deux figures dominent, je dirais, Charles Péguy, Psy Chariq, qui sont morts tous les deux au combat, qu'on retrouve. Donc, mais on retrouve aussi...
Mais bien d'autres.
Oui, Monterland, Charles Maurras, enfin ils sont nombreux, Paul Claudel, je ne vous cite que des académiciens, bien sûr. Non, mais alors pour en revenir, donc, Rémi Porte est avec nous pour ce dictionnaire de la Grande Guerre et va nous lire une notice un peu particulière, je dirais. Elle se rapporte à Clémenceau. Et c'est le « Je fais la guerre » de Clémenceau.
« Je fais la guerre ». Cette formule raccourcie attribuée à Clémenceau résume deux paragraphes d'un discours prononcé par le Tigre devant l'Assemblée nationale le 8 mars 1918 en réponse à une interpellation de messieurs Constant et Renaudel sur les responsabilités gouvernementales et les compromissions révélées par les débats du procès Bolo. Président du Conseil depuis novembre 1917, Clémenceau doit faire face à la fronde d'une partie du Parlement, en particulier sur les rangs de gauche. Le moral de la population est entamé par les rigueurs de l'hiver, la lassitude gagne à nouveau les armées, la révolution russe jette le trouble dans les esprits. Après avoir exposé sa conception de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, Clémenceau poursuit. « Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Je cherche à me maintenir en confiance avec nos alliés. La Russie nous trahit, je continue à faire la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler, je continue à faire la guerre. Et je continuerai à faire la guerre jusqu'au dernier quart d'heure. »
Merci Rémy Porte pour cette notice « Je fais la guerre » disponible donc dans le dictionnaire de la Grande Guerre paru aux éditions Robert Laffont dans la collection bouquins. Je précise qu'il s'agit même d'une de vos notices. Et elle est suivie d'une autre notice assez originale dont le titre est « Je les grignote ». Voulez-vous ajouter quelque chose sur ce dictionnaire de la Grande Guerre ?
Je crois très sincèrement... Je suis peut-être le moins bien placé pour en parler, puisque je suis un des
co-auteurs. Ou au contraire, le mieux.
Co-directeur et co-auteur. Mais je crois très sincèrement que c'était quelque chose qui manquait dans la bibliographie, une fois de plus, comme outil de travail, comme outil de recherche, comme outil de lecture. On peut aller picorer quelques informations ici ou là, au hasard du temps disponible et au hasard de ses centres d'intérêt, mais on peut aussi en faire un outil de recherche dans des domaines particuliers. La guerre navale, par exemple, dont on parle souvent très peu en France, est assez largement abordée, avec des noms de navires, avec les batailles navales, avec ce qui s'est passé dans tel océan ou dans telle mer. La guerre chimique est assez largement abordée, etc. etc. Et il y a donc le moyen de décliner toute une série de sous-thèmes de façon relativement pointue, tout en restant agréable à lire.
Oui, et précisons aussi, on n'a peut-être pas assez insisté sur cet aspect, que le regard étranger est aussi très présent dans le dictionnaire, puisque dans les auteurs du dictionnaire, comme on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'étrangers qui apportent leur éclairage sur cette Grande Guerre.
On ne trouve, à ma connaissance, aucun volume en France à ce jour qui prévoit, dans ces pages, une entrée sur le Danemark dans la guerre, la Perse dans la guerre, la Chine ou le Japon dans la guerre. On a vraiment essayé de montrer que cette guerre, pour paraphraser très modestement une phrase illustre, cette guerre était bien une guerre mondiale.
Nous arrivons au terme de notre émission. Merci Rémy Porte. Je renvoie nos auditeurs à ce dictionnaire de la Grande Guerre, disponible donc dans la collection bouquins aux éditions Robert Laffont. Au revoir et à très bientôt. Je vous conseille aussi donc d'aller dans la médiathèque de Canal Académie, écouter la conférence du professeur Jean-Jacques Becker sur l'armistice du 11 novembre 1918. Merci à tous, au revoir.